particulièrement qu'il y a des liens, si vous voulez, assez précis. Donc ce n'est pas une activité de loisir, comme par exemple l'exercice d'un sport ou d'un instrument de musique, où là, quelquefois, on ne voit pas directement le lien qui peut exister avec l'activité professionnelle. Donc c'est un prolongement du travail. Pour certains, c'est SPIP et l'activité économique, hein, c'est-à-dire que c'est le job au jour le jour de faire du SPIP. Et donc là, ils sont dans un rapport particulier avec la communauté. Pour d'autres, ça ne l'était pas au début, mais ce serait bien que ça le devienne, ou que ça puisse le devenir. C'est-à-dire de se dire, il y a un questionnement à un moment donné, se dire, je suis tellement impliqué, ou ça m'intéresse tellement, que je me dis, tiens, pourquoi pas, ce serait quand même sympa que, au lieu de faire ça à côté, que ça puisse devenir mon activité. Donc, ça, on a vraiment remarqué qu'il y avait... ce lien-là. On pourra y revenir, si vous voulez, par après. Alors, deuxième chose, donc c'était tout d'abord comment devient-on contributeur. Deuxièmement, comment la communauté est organisée. Et c'est cet aspect-là, je pense, qui est très intéressant, parce que on est, vous le savez bien, dans un... On a tous entendu parler de l'opposition entre le modèle du bazar, le modèle de la cathédrale, qui est un peu la littérature qui circule, quand on parle de comment ça s'organise, c'est surtout à ça qu'on se réfère. Et donc ce modèle du bazar qui ferait dépendre la participation d'engagement spontané, d'un fonctionnement qui n'est pas une rigueur très très forte. Alors, évidemment, cette histoire-là, vous la connaissez encore mieux que nous, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au fil de l'histoire du projet, entre ses débuts et maintenant, il y a eu, c'est ce que dans notre langage, on appelle la division horizontale du travail, c'est-à-dire comment on répartit des tâches entre des personnes. Alors, j'ai oublié de vous dire, nous, on vient un peu avec des grilles d'analyse de fonctionnement de n'importe quelle organisation marchande, des choses déjà éprouvées par la société du travail, et on essaie de voir si ça résiste à l'étude d'une communauté comme celle-là. Donc, la division horizontale, c'est comment, face à un ensemble de tâches qu'il faut faire pour que ça fonctionne, on arrive à le répartir entre les personnes. Alors, on voit bien que ce qui indique cette division-là, c'est la création de multiples listes différentes dans SPIP. Il y a la liste SPIP Dev, User, Trad, Contrib, le Lab, la Zone, Mag, Party, etc. On voit bien que toutes ces listes permettent à des personnes qui sont animées de motivations tout à fait différentes, de compétences ou d'intérêts tout à fait différents, de se retrouver d'une certaine manière dans une série de sous-espaces dans lesquels ils peuvent valoriser leur implication, trouver des personnes qui sont un peu comme elles ou animées des mêmes intérêts. Hein. Vu de l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement interne, on a toujours tendance à envisager les communautés de logiciels libres comme une affaire de purs informaticiens, hein, de geeks, de codeurs, etc. Et on ne se rend pas compte de la multitude d'activités qu'il faut faire tout autour pour que ça puisse fonctionner. Et donc, on pourrait se dire que chaque liste correspond à une sorte de segmentation des personnes, même si les personnes ne sont pas inscrites dans le cadre d'une seule liste sans jamais voir ce qui se passe dans les autres. Évidemment, c'est beaucoup plus poreux que ça, mais c'est la possibilité de mobiliser, d'impliquer les personnes dans des sous-espaces un peu définis. Ça, c'est la division horizontale. Alors, il y a une autre division qui est la division verticale, qui, elle, sur le plan du concept, différencie un petit peu un ensemble de tâches. C'est la différence entre, habituellement, dans les entreprises, dans les ateliers, etc., entre les tâches de décision et les tâches d'exécution. Ça ne s'applique pas très, très bien comme ça, mais il y a une sorte, quand même, de répartition des responsabilités entre les personnes. Qui existe un modèle d'organisation pour faire qu'on puisse quand même avancer, qu'on puisse sortir des versions, qu'il y ait des choix qui soient faits, etc. Il faut nécessairement qu'il y ait des sortes de modalités de prise de décision. Alors, ce qui nous est apparu, nous, c'est que, au fond, c'est comme si on avait affaire, pas à une pyramide, mais à la coexistence de trois cercles, on pourrait dire. Il y a une sorte de premier cercle qu'on pourrait appeler cercle stratégique, qui est composé des auteurs historiques du logiciel et qui ont des rapports entre eux, qui sont des rapports interpersonnels assez forts, c'est-à-dire qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent, qui se connaissaient avant de faire le projet, hein, ou c'est venu, mais enfin, qui avaient certaines de proximité, surtout qui ont un partage de mêmes orientations sur ce qui fonde une sorte d'identité du projet. Hein. Étant donné que ce n'est pas un projet dont l'identité est liée à des rapports de marché, c'est-à-dire d'un jeu d'offres et de la demande, ou d'essayer de faire mieux ou différemment des concurrents, ou en fonction de ce que les clients demandent, etc., il y a la possibilité d'élaborer un projet qui a une identité forte, c'est-à-dire une sorte de vision du monde, une philosophie, et qui les intéressés, sur lesquels ils ont envie de s'engager, et qui est une sorte de cap à essayer de tenir et à défendre. Sans tenir ce cap-là, sans le fait de défendre ce projet-là, au fond, l'intérêt de la très forte implication qu'ils peuvent avoir s'évanouirait sans doute. Hein. C'est parce qu'il y a ce projet-là qui est assez fort et qui tient. Dans d'autres communautés qu'on a pu voir, ce n'était pas nécessairement ce... Enfin, il y a toujours une identité de projet qui est relativement forte, mais les gens peuvent être tenus par des dispositifs juridiques ou institutionnels, le fait que ce soit, par exemple, trois collègues d'un même centre qui commencent à développer, ou d'une même université, qui commencent à développer un projet. Là, on voit bien que ce qui tient ces personnes au départ, ce sont plutôt des relations de travail, etc. Hein? Ici, c'est un cas un peu différent, puisque... Ce qui lie ces fondateurs-là ne repose ni sur aucun lien de travail, de subordination, d'échange ou de rapport économique ou quel que soit. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du spontané, du volontaire, si vous voulez. Alors, pour qu'un projet puisse fonctionner, et là, je parle de manière générale avec d'autres projets qu'on a analysés, c'est qu'on voit bien, je vous ai dit qu'il y a, enfin, vous le savez bien, un ensemble d'activités à mener. C'est-à-dire qu'il faut coder, et puis il faut débugger, et puis il faut documenter, et puis il faut répondre, etc. Entre ces quelques personnes qui sont dans une sorte de cercle stratégique, c'est difficile, évidemment, de mener toutes ces activités de front. Donc, il y a la nécessité, ou bien, enfin, c'est le modèle, c'est d'avoir un cercle plus éloigné, étendu, anonyme, distant, des utilisateurs ou de n'importe qui va donner sa pierre à l'édifice, de tout un ensemble de personnes qui peuvent apporter cette petite pierre à l'édifice sans nécessairement avoir des liens interpersonnels très forts, sans nécessairement partager jusqu'au dernier carat l'identité du projet ou les orientations ou le cap qui est maintenu, mais qui peuvent rapporter un bug, dire l'expérience, souhaiter une nouvelle fonctionnalité, donner la documentation qu'ils ont réalisée, etc. Et là, dans ce cadre-là, l'anonymat permet, on pourrait dire, la participation d'individus qui ont des motivations extrêmement diverses, hein, et qui peuvent même ne pas partager du tout la philosophie du projet, mais être intéressés uniquement sur le dispositif technique et donc ne pas avoir nécessairement de rapport, si vous voulez, spontané ou affectif presque au projet. Et puis, on a ce cercle stratégique, ce cercle éloigné, hein, on pourrait dire... la masse invisible de personnes. Et puis, petit à petit, on voit, de manière concomitante à la création de multiples listes, donc cette fameuse division horizontale, toute une sorte de cercle intermédiaire de personnes qui manifestent aussi une implication assez forte, qui entretiennent des liens plus particuliers avec certains membres du cercle stratégique, qui, mais pour autant, dont l'activité ne porte pas nécessairement directement sur le code, etc., mais qui est une sorte d'affinité, et qui vont s'impliquer fortement, jouer un rôle d'animation, de sollicitation des contributions, d'essayer de faire vivre un petit peu la communauté, d'avoir, de recruter, entre guillemets, des personnes, de s'assurer qu'on répond aux questions qui ont été posées, etc. Bref, de faire partie un petit peu du bateau et d'animer les choses. Hein. Bon, alors je suppose que bon, nous, on a vu une série de personnes. Je suppose qu'en disant cela, vous associez des noms, des pseudos à l'un ou l'autre cercle. Mais c'est quelque chose qu'à l'épreuve des faits, il nous semble, qu'on retrouve dans d'autres projets. Si on prend même le projet Debian, où on a des collègues qui travaillent là-dessus, on se rend compte qu'il y a une sorte de cercle stratégique aussi, composé de quelques personnes, hein, on dirait moins d'une dizaine, qui gèrent l'ensemble, un ensemble de personnes plus anonymes, plus éloignées, etc., qui ne se rencontrent pas, etc., mais que pour que ça puisse fonctionner, il faut nécessairement qu'il y ait ça. Alors, là où c'est un petit peu spécial, c'est que, je ne sais pas si je suis toujours dans le quart d'heure.
Non, faut que tu te...
D'accord. C'est que, bon, j'utilise le terme division verticale parce que c'est le terme conceptuel, si vous voulez, mais qui a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que on utilise un modèle avec une série de cercles. Certains pourraient être tentés de l'envisager comme une pyramide. Et que il y a une sorte de paradoxe entre l'esprit d'une communauté, et je pense en particulier de SPIP, qui, si vous voulez, sur le plan, sur une sorte de philosophie de base, est là pour mettre l'individu, l'utilisateur, au devant de ses responsabilités, que ce soit lui qui puisse s'impliquer, qu'il soit indépendant sur le plan de la technique pour publier facilement, etc. Et par ailleurs, une recherche de modalités de fonctionnement pour essayer qu'il y ait des contributions, pour essayer justement que les gens participent, déposent les bouts de code qu'ils auraient fait dans leur coin et passent le cap d'aller les mettre, par exemple, sur Contrib ou sur d'autres. On a rencontré beaucoup de personnes, hein, je pense plutôt dans un cercle, alors, des personnes éloignées, qui ont toute une série de choses qu'elles ont développées, mais qu'elles n'ont jamais été proposées. Hein. On essaye de savoir un peu, mais pourquoi, alors, n'avoir pas fait ce pas-là d'aller déposer, hein, parce que il me semblait que ce n'était pas tout à fait fini, enfin, j'avais un peu peur, je n'avais pas trop, etc. Donc, il y a une série de... pas de blocage, mais de quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Quel est le pas que l'on fait pour vraiment rentrer dans le mouvement, ou alors que ce n'est quelque chose qui ne demande pas, enfin qui n'engage pas sur un long terme ou de manière intense, mais pourquoi ce micro-pas-là n'est pas fait nécessairement spontanément ou aussi facilement que ça? Alors, il en va de même dans l'animation des listes, la recherche de modèles pour essayer que cette collaboration puisse prendre plus facilement. Hein, et je pense que sans doute on pourra revenir là-dessus. Ce paradoxe donc, entre des personnes qui veulent s'impliquer, s'identifient au projet, certaines pour qui SPIP devient très important dans leur vie, et qui... pour autant, ont quelquefois des réticences à aller, à s'impliquer de trop ou à passer le cap. Alors, il y a une chose qui nous paraît intéressante aussi, et là, ça vous renverra sans doute à des choses que vous avez connues, subies, ou bien, c'est que un point particulier, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a attribué des responsabilités à des personnes, qu'on essaye de les inciter à faire des choses, hein, et nécessairement ça passe par le dispositif technique où on est admin de liste ou bien on a le droit d'aller comiter ou pas, etc. Ça, c'est un peu les interfaces techniques que vous utilisez qui vous imposent de faire la différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Mais que se passe-t-il quand on mandate des personnes d'une certaine manière pour faire des activités et qu'elles ne les font pas? C'est-à-dire, comment peut-on essayer dans ces communautés de, à la fois d'attirer des personnes, mais aussi de sélectionner, hein, sélectionner les contributions. Et puis, bon. Autrement dit, presque, si on voulait faire un rapport avec les organisations de travail habituelles, licencier des personnes, enfin, c'est pas vraiment ça, mais les écarter, ou bien, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit ou que quelqu'un ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, hein. Alors, évidemment, c'est difficile d'écarter des personnes, ou de les forcer à faire des choses qu'elles n'ont pas faites ou qu'on voudrait qu'elles fassent, hein, et c'est évidemment lié au caractère spontané, volontaire de l'implication. Et bon, ce que l'on voit, c'est que, qu'on le voit aussi dans d'autres projets, c'est que c'est soit le fork, ça c'est la chose la plus classique, c'est de se dire les gens avec qui j'ai envie de travailler, ça n'évolue plus, je prends tout et je fais un autre projet. Ou alors, c'est la création de listes, je pense, dans ce cas-ci, de listes parallèles, hein, c'est de se dire, bon, ben, si les personnes ne font plus exactement ce qu'on veut qu'elles fassent, ben, on va créer une autre liste et on recommence autrement. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas une liste en disant, maintenant, c'est terminé, mais on recrée autre chose. Il y a une sorte d'écologie de projet que les listes les plus performantes, actives, ben, prendront le pas sur d'autres. Hein. Voilà un peu comment on peut, comment on essaye de comprendre, au-delà de la segmentation par liste, aussi les dynamiques qu'ils peuvent avoir, etc. Alors je regarde, je pense que j'ai dépassé tout à fait le temps. Bon, donc voilà, je pense que le alors, comme je vous disais, c'est un travail en cours que l'on fait. On a encore toute une série d'entretiens qu'on aimerait bien faire. Alors, peut-être, justement, avant d'arrêter,